Voilà. Alors donc j'appelle à venir sur l'estrade avec nous Monsieur Pascal Michon, historien, philosophe, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles, qui a créé et qui anime le site Ruthmos. Donc nous lui avons demandé la lourde tâche d'introduire, d'être le premier intervenant pour nous parler des rythmes, pour nous amener à penser, puisque Monsieur Michon n'est pas spécialiste de la petite enfance, mais je crois que ce qu'il va nous dire va pouvoir nous faire réfléchir profondément à cette question.
Un premier point, c'est pour vous rappeler deux, trois choses sur ce débat qui est en cours, qui commence assez tôt pour les précurseurs. Paul Virilio, dans les années 70, avait déjà écrit un livre qui s'appelle « Vitesse et politique », essai de dromologie, donc sur la vitesse. Mais c'était très, très, un petit peu décalé par rapport au structuralisme de l'époque et à certaines préoccupations de l'époque. Il a été rejoint dans les années 80-90 par beaucoup d'autres auteurs dans le monde anglo-saxon. Je pense à un géographe qui s'appelle David Harvey, qui travaillait sur la question de la compression de l'espace, mais qui revient au même que l'accélération du temps, vous comprenez. Ou bien Richard Sennett, qui est un sociologue américain qui vit en Angleterre, je crois, et qui a travaillé, lui, sur... les conditions de travail, sur l'organisation du temps de travail, fin des années 90, en soulevant un certain nombre de problèmes qui commençaient à apparaître à cette époque-là, du fait des changements même de ces conditions. On a aussi en Italie, à la fin des années 90, un sociologue, thérapeute en même temps, qui s'appelle Alberto Melucci, et puis dans les années 2000, une inflation de travaux, aussi bien dans tous les pays que je viens de citer, en France, en Allemagne. Tous ces travaux tournent autour de la question de la vitesse, de l'accélération, de l'agitation de la vie quotidienne, de la frénésie au travail. Dans son livre « Accélération », qui est paru en 2005, Hartmut Rosa, un jeune sociologue allemand, fait un très gros travail de classement de toutes ces données, à la fois des données empiriques et des données théoriques. Il distingue... Tout d'abord, l'accélération technique, c'est-à-dire le fait que les techniques, en particulier les techniques de production et de communication, changent de plus en plus rapidement. Deuxièmement, l'accélération des changements des structures sociales, c'est-à-dire le fait que ces changements qui demandaient autrefois plus qu'une génération, on savait à peu près ce qui allait se passer dans 30 ans, enfin, en gros, on s'attendait à trouver une société assez proche de celle qu'on connaissait, eh bien, ces changements sont de plus en plus rapides et ils sont intra-générationnels. Dans l'espace d'une génération, on voit des changements sociaux très importants se produire. Et puis, troisième point, l'accélération du rythme de la vie, c'est-à-dire le fait que nous sommes obligés à faire toujours plus d'actions dans un temps le plus court possible, même parfois à mener plusieurs actions simultanément. C'est le multitâche. Cette année est paru un autre livre très intéressant, écrit cette fois par un philosophe qui s'appelle Christophe Bouton et qui s'appelle « Le temps de l'urgence ». Et dans ce livre, Christophe Bouton décrit les effets de cette extension du domaine de l'urgence. Il les décrit dans l'économie, dans le travail, dans la vie quotidienne, mais aussi dans le droit, la politique, on fait toujours plus de lois, toujours plus rapidement et toujours moins bien. Dans l'environnement, dans l'éducation, dans les médias, et on pourrait ajouter aussi la culture en général. Alors, je me limite ici juste à un seul de ces aspects, mais je vous renvoie au livre pour le reste. C'est l'aspect le plus connu, bien sûr, mais peut-être aussi un des plus importants, et il n'est pas indifférent de le rappeler. C'est l'accélération et l'urgence dans le monde économique. Le XXe siècle a tout d'abord connu ce qu'on appelait l'organisation scientifique du travail, l'OST, hein, le taylorisme, puis, dans les années 60, le toyotisme. Il s'agissait d'augmenter la productivité des travailleurs en les insérant dans des chaînes de fabrication tournant de plus en plus rapidement. Parallèlement, bien sûr, puisque la production augmentait, on a développé la consommation et on a aussi accéléré ces cycles de manière à pouvoir absorber cette production toujours croissante. Toutefois, ce modèle économique des deux tiers du XXe siècle commençait à s'essouffler dans les années 70, et le capitalisme a alors dû trouver de nouvelles manières de produire et de consommer. Au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, sont ainsi apparus dans les entreprises, mais aussi dans les services publics, vous savez, de nouvelles techniques de management par équipe, par compétition interne, et parallèlement, on a encore étendu et accéléré les cycles de consommation par l'obsolescence programmée. Il faut changer sa machine à laver tous les 4 ans parce que toujours une pièce qui tombe en panne et on ne peut pas la changer. Par les changements incessants de gamme de produits, il faut changer de smartphone tous les 2 ou 3 ans. Et une marchandisation de secteurs jusque-là épargnés comme l'enfance et bientôt la gestation pour autrui. En ce début de XXIe siècle, le temps de travail apparaît ainsi comme un temps à la fois densifié, compressé, imposé et contrôlé. Les conséquences de ces transformations sont bien documentées. Alors, je les rappelle, vous les connaissez certainement, on a tous été confrontés à ces problèmes. Elles vont de la perte de la satisfaction de l'ouvrage bien fait à la fatigue, le surmenage, la dépression, le burn-out, voire dans certains cas, comme à France Télécom, le suicide. Bien entendu, ces conséquences ne s'arrêtent pas à la porte des entreprises. Elles ont tendance à contaminer le reste de la vie quotidienne. Et c'est pourquoi on trouve aussi de plus en plus souvent chez l'homme en état d'urgence, le time urgent personality, qui est décrite par un sociologue américain qui s'appelle Robert Levine. On trouve donc chez l'homme en état d'urgence des transformations psychiques qui confinent parfois à la pathologie. Le sentiment de manquer de temps, l'impatience, l'obsession de la ponctualité, la manie de tout planifier en détail, même dans les moments de temps libre, la concentration exclusive sur les intérêts professionnels aux dépens de la vie privée, les insomnies, les idées fixes, etc. Plus généralement, cette accélération a des effets anthropologiques de fond. Les techniques de management moderne façonnent un homme nouveau. Elles convertissent l'homo economicus en homo temporalis. Le salarié doit être le leader de soi-même et gérer sa vie comme une micro-entreprise. Et de ce point de vue, l'urgence signifie la fin d'une certaine culture de la vocation et de tous les projets conçus à l'échelle d'une vie, par exemple le métier ou encore le mariage au sens traditionnel du terme. Sur la description de ces phénomènes, les observateurs sont à peu près d'accord. Ils divergent, en revanche, quant à leur interprétation. Robert Levine, par exemple, identifie 5 facteurs principaux qui détermineraient les rythmes de la vie. Alors, il cite la santé de l'économie, si ça va bien, si on est en crise, le degré d'industrialisation, si on est dans un pays plutôt agricole, les rythmes se relâchent un peu, et quand ça s'industrialise, on va plus vite. La taille des regroupements en question, si on est dans une petite ville ou plutôt une grande ville, ou à la campagne. Le climat, je reprends encore cette catégorie du XVIIIe siècle, et le degré d'individualisme des sociétés concernées. Hartmut Rosa, dont je vous parlais tout à l'heure, attribue quant à lui l'accélération à 3 grands moteurs. L'accélération du rythme de la vie serait entraînée par les promesses d'émancipation, de réalisation de soi de la modernité, c'est-à-dire on aura envie d'en faire plus parce que dans la modernité, il faut se réaliser. L'accélération technique serait soumise aux exigences du capitalisme, donc à la diffusion de cette économie monétaire et financière. Et enfin, l'accélération du changement social s'alimenterait dans l'accentuation de la différenciation fonctionnelle, c'est-à-dire la division des fonctions à l'intérieur de la société, la spécialisation fait que, eh bien, il y aurait de plus en plus de spécialisation et aussi de plus en plus d'activités pour chacun. Christophe Bouton ne récuse pas entièrement ces explications, mais il en conteste l'absence de hiérarchisation. Et quand ce n'est pas le cas, il conteste aussi la tendance assez fréquente chez les sociologues et les essayistes qui réfléchissent sur ces questions, à mettre en avant le facteur technique. Pour lui, et je suis assez d'accord avec lui, Il n'y a aucun déterminisme de la technique. Cette idée sert surtout à ne pas nommer les causes réelles de cette accélération de la vie. Causes réelles qui sont soit idéologiques, soit économiques. La cause principale de la diffusion de l'urgence se trouve dans la reprise de la course à la productivité qui caractérise le capitalisme depuis que, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les années 80-90, celui-ci, sous la pression des marchés financiers, a commencé à exiger une rentabilité de 15%. Comme le dit Nicole Aubert, sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle « Le culte de l'urgence » en 2003, que je vous conseille aussi de lire, très intéressant. Ce qui unit les trois premiers concepts d'urgence, d'instantanéité et d'immédiateté, c'est celui de vitesse, elle-même au cœur du système capitaliste. Plus le capital tourne vite et plus le taux de profit annuel est élevé, d'où la recherche effrénée d'accélération qui imprègne toute l'histoire du capitalisme. Donc, voilà à peu près le très sommairement résumé le débat qui est en cours parmi les gens qui réfléchissent sur ces questions, que ce soit sociologues, philosophes, essayistes, historiens comme moi. C'est quelque chose qui reste ouvert, mais qui est très vivant. Pour ma part, je pense que je suis tout à fait d'accord pour sortir le débat d'abord de la seule question technique, qui cache un peu souvent, enfin c'est l'arbre qui cache la forêt, ou même seulement du changement social, et de poser la question à partir du capitalisme. Mais quand on raisonne de cette manière-là, il me semble qu'il manque un maillon dans le raisonnement qui permettrait de passer de ces transformations du système de production et de consommation aux difficultés de la vie, aux pathologies qui sont observées sur le terrain. Vous voyez, il y a comme une espèce de distance trop grande entre ces réalités. Dans la plupart des approches contemporaines, ce qui permet de faire le joint entre ces deux réalités, faire le lien, c'est la notion de temps vécu, de durée intérieure. C'est le temps vécu, c'est-à-dire l'expérience propre à chacun, qui serait bouleversée, dégradée par l'accélération des interactions. Or, notre vie, me semble-t-il, comprend bien d'autres aspects que le seul temps vécu et que le seul tempo de nos activités. Et autre aspect qu'il faut absolument prendre en compte si l'on veut pouvoir juger des processus d'individuation et de subjectivation, ou de désindividuation et de désubjectivation, qui se produisent dans nos sociétés hypermodernes. Je prendrai pour illustrer mon propos une analyse proposée par Alberto Melucci à la fin des années 90, dans un texte qui s'appelle « Rythmes internes et rythmes sociaux dans un monde planétaire ». Le texte date de 1997. Du fait des nouveaux développements du capitalisme, de la mondialisation de la production et des échanges, du fait des progrès des technologies de transport et de télécommunication, nous vivons, fait remarquer Melucci, dans un monde de plus en plus complexe. Complexe, il faut l'entendre au sens des théories de la complexité, c'est-à-dire à la fois plus différencié et toujours plus interconnecté. Les deux à la fois, plus différencié et plus interconnecté. Nous appartenons à une pluralité grandissante d'équipes de travail, de réseaux, d'associations ou de groupes de référence, et la quantité d'informations que nous émettons ou que nous recevons augmente en permanence. Puisque les médias, l'environnement professionnel, les relations interpersonnelles génèrent des flux d'informations toujours plus importants. Notre action, dit Melucci, est donc soumise à une double contrainte. D'un côté, elle se divise entre des sphères d'action de plus en plus nombreuses et distantes les unes des autres. De l'autre, elle est sans cesse soumise à la pression des informations qui nous arrivent, des injonctions dont on parlait tout à l'heure, même si elles sont parfois contradictoires, stimuli qui parviennent donc à la personne par les divers moyens de télécommunication, moyens qui lui deviennent du coup indispensables pour relier et tenir ensemble, autant que faire se peut, ces différents moments. Cette double contrainte explique que notre expérience tende à la fois à se fragmenter et à devenir de plus en plus dépendante de moyens extérieurs pour garantir son unité. Autrefois, dit Melucci, la plus faible diversité des interactions, leur stabilité, leur aspect routinier et prévisible, la lenteur des transformations sociales et techniques, la maigre quantité d'informations à traiter permettaient à tout un chacun de s'appuyer sur des rythmes corporels, des rythmes langagiers, des rythmes sociaux, relativement stables. Et elle pouvait affirmer assez facilement la continuité de son identité. Aujourd'hui, du fait de la multiplication et de la diversification des groupes auxquels nous appartenons, nos interactions se succèdent au cours de la journée, de la semaine et de l'année de manière très irrégulière, parfois très rapidement, parfois en se chevauchant, mais aussi parfois en s'arrêtant brusquement. Ces nouveaux rythmes de la socialité nous imposent d'être capables d'arbitrer entre des possibilités d'interaction plus nombreuses, de passer sans transition de moments d'attente et de rapport à soi à des moments d'échange plus ou moins absorbants, et finalement de nous engager rapidement dans les groupes auxquels nous voulons participer, mais aussi éventuellement de nous en désengager tout aussi rapidement et souplement. Or, comme chaque champ possède ses propres règles de sociabilité, ses codes comportementaux, ses manières d'avancer dans le langage, c'est-à-dire ses propres rythmes, et que cela rend impossible de compter sur des schémas d'action déjà éprouvés, il faut être capable d'improviser en permanence la manière de se comporter. Ainsi, notre expérience apparaît-elle de plus en plus morcelée, chaotique et incertaine. Melucci analyse les conséquences de cette transformation de l'expérience. Tout d'abord, le fait que les individus traversent au cours de leur existence quotidienne des moments de plus en plus hétérogènes, qu'ils soient portés par des rythmes de plus en plus hachés, a des conséquences sur la construction du sentiment de soi. Les individus éprouvent une plus grande difficulté à ramener cette diversité d'expériences à une unité intérieure biographique. Dans la mesure où le temps est peuplé de durées très différenciées, la durée constructiviste typique de la modernité, la durée historique animée par un telos, une finalité, laisse la place à un présent peuplé d'histoires relativement indépendantes. Par ailleurs, cette expérience d'éclatement s'accompagne d'une montée de l'incertitude. Confrontés à un trop-plein de possibilités, les individus butent sur un paradoxe. Ce paradoxe est le principe du choix qui est au fondement de la modernité. Ce principe était traditionnellement associé aux idées de liberté, aux idées de responsabilité. Or, avec ces transformations que je viens de décrire, il devient synonyme de destin et de nécessité. Nos possibilités d'action s'élargissent, mais nous nous sentons de plus en plus sous pression. Nous devons opérer des choix fréquents et permanents. Et en réalité, nous n'avons aucun moyen d'éviter cette opération. Or, ce paradoxe engendre, selon Melucci, des troubles psychologiques et comportementaux inédits. Choisir se révèle être pour les individus une tâche de plus en plus lourde et frustrante. Ce qui est laissé de côté est en effet toujours, de façon disproportionnée, beaucoup plus considérable que ce qui est choisi. À la fatigue du choix s'ajoute alors, dès qu'il est accompli, une pure expérience de perte sans objet bien déterminé qui aboutit soit à la dépression, dit-il, soit à des troubles maniaco-dépressifs lorsque certains individus s'engagent dans un effort désespéré pour conserver l'ensemble de leurs possibilités d'action. Enfin, ces difficultés à maintenir une unité psychique, alors que l'expérience est toujours plus morcelée et incertaine, et l'angoisse qui naît de l'excès même de possibilités, expliquent que nous soyons de plus en plus dépendants de la technique. On connaît depuis des travaux assez anciens déjà de Edward Thompson, c'est un historien des années 60, enfin 60-70, anglais, d'un sociologue qui s'appelle Norbert Elias. On connaît l'importance des instruments qui permettent de mesurer le temps, ce que nous avons tous intégré dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire ces horloges au départ, puis ces montres, puis maintenant toutes ces horloges électroniques qui sont intégrées à nos téléphones portables, qui permettent de construire le temps comme un continuum métrique, régulier et surtout universel, partagé par tout le monde. Ce sont ces outils qui permettent aux individus de coordonner des interactions de plus en plus diversifiées et de développer les formes d'individuation autrefois disciplinaires, aujourd'hui plutôt nomades, à la fin du XXe siècle, ça a quand même beaucoup changé, XXIe siècle aussi, qui sont adéquates à ces outils. Alors, instruit par l'expérience des années 90, Melucci note que les techniques de télécommunication et de traitement de l'information sont désormais devenues à leur tour un support déterminant de l'individuation. De fait, il n'y a rien de plus intolérable et douloureux, j'imagine que vous avez tous fait cette expérience, pour un adolescent aujourd'hui que de se voir confisquer son téléphone portable. Essayez, vous allez voir la réaction. Ce genre de sanctions scolaires, dans mon cas, ou familiales aussi, déclenche en général des protestations véhémentes, scandalisées, qui montrent bien qu'on a touché à quelque chose de fondamental pour l'identité de la personne en question. Il n'est pas abusif de dire qu'une bonne part du soi des jeunes d'aujourd'hui, de nos enfants, se trouve aujourd'hui dans la puce de leur téléphone portable. Tout se passe comme si, au support extérieur traditionnel de l'individuation, c'est-à-dire la propriété privée, les droits sociaux, des supports dans la modernité du XXe siècle des individus, se sont ajoutés depuis quelques années certains outils donc techniques de communication et de conservation, de tri de l'information. Melucci conclut ses analyses de manière très originale. L'unité et la continuité de l'expérience individuelle, dit-il, ne peuvent être trouvées dans une identification fixe comportant un modèle, un groupe, ou une culture bien définie. Elles doivent donc être plutôt fondées sur une capacité interne à changer de forme, à se redéfinir constamment dans le présent, à renverser des décisions et des choix. Autrement dit, le maintien, voire l'amélioration de nos capacités à agir et à exister exige que nous nous montrions capables d'ouvrir et de fermer, de prendre part au flux de messages et de s'en éloigner. C'est-à-dire, dit-il, de trouver un rythme d'entrée et de sortie qui permette à chacun d'entre nous de communiquer de façon sensée, sans étouffer notre existence interne. L'individu doit être en mesure d'établir une oscillation permanente entre les deux niveaux d'expérience. Il doit devenir de plus en plus l'arbitre et le régulateur, je crois que le mot est important, le régulateur de cette oscillation. Il est le seul à avoir la faculté d'en donner le rythme et le tempo. Alors, combien de temps il me reste pour que je ne déborde pas trop ?
5 minutes.
Très bien. Je vais maintenant, après ce premier exemple, changer d'échelle et vous donner un autre exemple tiré toujours de la littérature sciences sociales, plus précisément de la sociologie. Il s'agit d'une ethnographie de l'intervention d'urgence sociale. C'est un jeune sociologue qui s'appelle Édouard Gardella, qui travaille sur le SAMU social. Et il m'a semblé assez intéressant de vous en parler parce que je vous laisserai faire les transpositions, mais j'imagine que ça va un peu résonner par rapport à votre expérience. Donc, ce jeune sociologue travaillait au SAMU social, vous savez, donc service qui intervient dans la rue, et puis auprès d'associations qui travaillaient aussi avec des SDF dans la rue. Alors, il y a quelques années, Gardella observe une association qui effectue un travail de rue. Et c'est dans deux arrondissements du sud-est parisien. L'équipe de rue à laquelle il s'attache est pressée d'intervenir sur un site qualifié de prioritaire et sensible par les pouvoirs publics, c'est-à-dire la préfecture de police, la préfecture de Paris, la mairie de Paris. Et lors d'une réunion avec le responsable de la DAS, le préfet, les directeurs chargés de l'urgence sociale de la ville de Paris, la direction de la prévention et de la protection et la mairie d'arrondissement concernée, l'association apprend qu'une date butoir va être fixée pour expulser les personnes qui sont installées avec des tentes et même des baraquements sur une partie des quais d'Austerlitz. Comme la police le reconnaît, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de plainte des riverains, il n'y a pas non plus, d'après les services de santé publique, de problèmes d'hygiène. La ville veut simplement récupérer cet espace pour faire une cité du design, qui est déjà sortie de terre maintenant, vous la connaissez peut-être. Le responsable de l'équipe de rue tente d'expliquer aux acteurs administratifs que son association suit certaines de ces personnes depuis plusieurs mois, voire parfois plus, et qu'ils ont fait un gros travail relationnel. Dans leur activité, l'hébergement n'est pas une fin en soi. Ils ont surtout mis l'accent sur l'hygiène, l'estime de soi, la mobilisation de soi. Et si ces personnes doivent partir, peut-être elles vont aller ailleurs, l'équipe ne les retrouvera pas, ou alors peut-être seulement dans 6 mois. En tout cas, ils auront perdu du temps, de l'argent, de la mobilisation, du lien. Et tout le temps qu'ils auront mis à créer ce lien. L'équipe de rue accepte toutefois un mandat de la préfecture pour aller faire un diagnostic social, entre guillemets, sur le terrain. La tournée montre que les situations sont extrêmement variées. On trouve entre de nombreuses installations, plusieurs tentes de Roumains qui doivent rentrer en Roumanie le lendemain via l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et de l'immigration, un couple de jeunes de 18-20 ans sous tente, sans aucun suivi social, 2 hommes âgés de plus de 50 ans originaires du Maghreb, installés depuis des mois sur les quais, qui ont construit une espèce de maison en bois, de baraque en bois, des hommes qui sont depuis des années à la rue, il y en a un qui lit tranquillement dans un tunnel, pendant qu'un autre est très alcoolisé au bord de la dépression, cherche absolument à parler aux maraudeurs. Un autre qui est un ancien collègue chez EDF de l'un des maraudeurs et qui, une dizaine d'années auparavant, suite à une rupture, a dégringolé les étages, comme il se dit. Au moment de sa mise en œuvre, le protocole de prise en charge provoque une vive tension chez les maraudeurs. Selon eux, habitués à effectuer un accompagnement individualisé, il faut prendre en compte l'extrême diversité des situations et trouver des réponses au cas par cas. Mais ils se heurtent à une autre logique. Cette logique, c'est la logique administrative, qui résonne en nombre de personnes à placer et donc en nombre de places à trouver. Le 30 mai, les quais devront être libérés sous peine de déplacement par les forces de la BAPSA, la Brigade d'assistance aux personnes sans abri, qui peuvent aussi s'appuyer sur les forces de l'ordre. Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que ces maraudeurs se sont sentis à ce moment-là totalement instrumentalisés. Non pas qu'ils critiquent le fait de trouver des hébergements, mais leur travail n'était pas finalement celui-là. Il était principalement d'accompagner ces personnes pour essayer de les sortir de la rue. Donc, quand le sociologue observe les pratiques de cette association et la crise qu'elle traverse à ce moment-là, il met en évidence l'importance de la temporalité dans ces pratiques, et plus particulièrement des rythmes dans l'organisation, donc, des interactions et surtout de leur qualification éthique et politique. Tout d'abord, cette thématique temporelle apparaît au niveau de l'aide elle-même. Les maraudeurs font souvent état de situations où il faut réagir vite à une demande formulée par l'usager, dont la motivation et la persistance de la motivation est souvent incertaine. Il faut parfois, au contraire, ne rien brusquer, prendre le temps de discuter, de revenir plus tard, pour ne pas braquer la personne ou la forcer à accepter une solution qui finalement ne lui conviendra pas et qui engendrerait un sentiment d'échec, éventuellement. Donc l'horizon temporel peut être de court terme ou de long terme, selon les moments ou les interprétations de chacun des protagonistes de la relation d'assistance. Sous sa forme normale, la relation d'assistance prend ainsi la forme d'une relation d'accompagnement fortement individualisée. Il faut suivre le rythme des personnes concernées. La relation implique une prise en charge de la personne. Elle doit permettre un travail plus large que la stricte mise en hébergement. Donc il faut insuffler une énergie, il joue sans arrêt sur cette distance ou cette proximité avec les personnes auxquelles ils ont affaire. Il négocie en permanence une forme de reconnaissance qui pourra déboucher sur la sortie de rue, sur une mise en hébergement, sur une décision d'arrêter l'alcool, sur une acceptation d'aller soigner une plaie qui s'infecte depuis des mois, voire la décision de revoir des membres de la famille, et même peut-être conviction assumée et vécue comme un choix de rester à la rue. Donc, ces maraudeurs se sont trouvés à ce moment-là pris entre deux feux, leur éthique professionnelle qui était cette éthique de l'accompagnement, qui était un respect des rythmes propres des personnes, et puis un rythme qui était imposé par des nécessités institutionnelles, qu'ils ne remettent pas tellement en cause d'ailleurs, puisque quand on leur pose la question, ce qui les gêne le plus, c'est que l'administration ne fournisse pas les places d'hébergement qu'elle promet, ou qu'il les fournit trop tard. Donc, ils ne sont pas dans une relation d'opposition stricte, mais ils réfléchissent sur ces questions. Cela dit, pour terminer, il ne faudrait pas opposer les praticiens aux institutions, ils sont absolument nécessaires les uns et les autres, ils fonctionnent les uns avec les autres. Et donc, il faut sortir de l'idée d'un pur dualisme, d'une pure opposition. Et ça se voit très bien dans l'enquête de Gardella, parce qu'il insiste beaucoup sur le fait que les maraudeurs, en même temps qu'ils se plaignent des retards des institutions et de leur lourdeur, d'une certaine manière, même s'ils n'en parlent pas dans un contexte officiel, pointent tous les problèmes qui sont liés à la logique de l'assistance elle-même. Et là aussi, on est en plein dans les problèmes de la temporalité. Je vais en citer deux, trois pour finir. Comment, par exemple, choisir entre, d'un côté, respecter le rythme de la personne, donc en faire un critère éthique de la pratique, mais risquer un aménagement de sa situation qui va la dégrader physiquement si elle reste trop longtemps à la rue. De l'autre, comment... Est-ce qu'il ne faut pas choisir une incitation plus forte à un hébergement et espérer un déclic, mais risquer aussi, à l'inverse, de perdre le lien ? Parce que si l'hébergement et la sortie de rue ne fonctionnent pas, on aboutit à une humiliation qui peut aussi conduire à une dégradation. C'est une première aporie qui est au fondement de controverses récurrentes dans le monde de l'urgence. Nettoyer ou aménager la rue ? Mise à l'abri obligatoire ou liberté du choix ? Faut-il forcer les personnes à aller en hébergement au bout d'un certain temps, afin qu'elles évitent de se dégrader de façon irréversible en restant dans la rue ? Ou faut-il préférer garantir l'éthique de l'accompagnement en ne posant aucune limite temporelle, a priori, de la relation d'aide ? Deuxième aporie, c'est l'aporie du care, de ce temps infini du care, du souci de l'autre, qui est soumis à une accumulation permanente de micro-charges, de micro-attentions, qui peuvent devenir épuisantes, voire contre-productives. Se focaliser sur la relation pour elle-même peut conduire à un enlisement de la rencontre, dans une forme d'amélioration minimale du quotidien de la rue, qui entrave la volonté de s'en sortir en reconstituant une espèce d'environnement familier. Et c'est à ce moment-là que la tentation de la réparation surgit, dit une maraudeuse. On a envie d'accélérer la prise en charge, on veut que la personne vienne en hébergement tout de suite. Et c'est là que l'incertitude de l'épreuve se révèle crûment. La personne peut avoir un déclic, se retrouver dans un centre qui lui convient, sortir de la rue. Mais elle peut tout aussi bien ne pas tolérer cette accélération et refuser tout contact par la suite. Elle peut aussi aller en centre, mal vivre cette expérience, quitter le centre, avoir de nouveau un sentiment d'échec. Conclusion, on voit que pour les acteurs sur le terrain, la question de la temporalité est centrale. Ils sont toujours affaire à ces questions-là, ces questions de rythme, ces questions de rapport de rythme, de chevauchement de rythme ou de contradiction de rythme, et que finalement repose sur leurs épaules la responsabilité du choix. C'est à chaque praticien de décider, cas par cas, ce qu'il pense être le meilleur. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, Monsieur Michon, de nous avoir... comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup de questions, mais je propose qu'elles aient lieu après la deuxième intervention. Et Monsieur Pascal, justement, pourra superviser cette discussion.